Oui, alors je suis marionnettiste et pour être marionnettiste, je pense qu'il faut d'abord être comédien. Donc d'abord j'ai été comédien et ensuite j'ai appris la marionnette, plusieurs techniques de marionnette parce qu'il y a plusieurs formes de marionnette. Et pour ce spectacle, j'ai choisi la marionnette à tringle. C'est comme une marionnette à fil. C'est une marionnette qui représente complètement un humain. Et il y a une tige en métal qui part de la tête et les fils qui partent des autres membres. Et ce type de marionnette peut faire plein de choses, mais elle a la possibilité de se déplacer très rapidement et de faire aussi des choses très folles qui conviennent bien à l'esprit de la parodie et donc du spectacle que nous avons monté. C'était ces marionnettes-là qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Elles sont d'ailleurs, vous verrez, habillées complètement comme au XVIIIe siècle, et certains visages sont blancs parce que les acteurs, à cette époque-là, peignaient leur visage en blanc et avec un peu de rouge, etc., parce que la lumière venait des bougies du sol. Donc il fallait donc pour que tout soit très visible, on était blanc et ensuite avec des gros dessins sur le visage. Voilà.
D'accord. En Chine, quand on évoque un spectacle de marionnettes, on pense plutôt c'est pour les enfants. Mais votre spectacle, c'est pas dans ce cas-là, c'est pour aussi pour les adultes.
Oui, c'est d'abord pour les adultes, parce que la musique est assez savante, le texte aussi, même s'il est très drôle, c'est d'abord pour les adultes. Mais le visuel est tellement varié, tellement drôle, que ça peut convenir aussi aux enfants. Mais c'est d'abord pour les adultes. Et à l'époque, au XVIIIe siècle, les spectacles de marionnettes étaient pour les adultes.
C'était à ce moment-là, c'était un spectacle très populaire
Oui.
plutôt dans le cours.
Les deux. En fait, c'était des spectacles qui étaient très populaires pour les gens qui ne connaissaient pas la musique et aussi pour le roi et à la cour. C'était extrêmement vivant, populaire. Le roi se déplaçait même très tard pour aller voir des spectacles de marionnettes et il se mêlait à la foule pour aller voir les parodies notamment.
Oui, et c'est une spectacle, c'est une pièce inspirée de Rameau,
Oui.
de musicien Rameau.
Oui, c'est une pièce qui est inspirée d'une pièce. C'est une pièce qui est inspirée d'un opéra de Rameau qui s'appelle Hippolyte et Aricie, qui est l'histoire de deux jeunes amants. Voilà. Hippolyte est le fils de Thésée. Thésée, après la mort de sa femme, s'est remarié avec une autre femme, Phèdre. Mais Phèdre devient amoureuse du fils de son mari. Et dans l'opéra, c'est tragique. Dans la parodie, c'est très drôle, parce qu'elle insiste, elle va le chercher, lui ne veut pas parce qu'il a déjà une fiancée, mais alors elle va essayer de le séduire, mais d'une manière enragée. C'est ça qui fait l'humour de la pièce.
Et pourquoi cette adaptation? Sinon, comme vous avez dit dans la conférence de presse, la dégradation.
Oui, la dégradation, c'est le système d'écriture de la parodie. Pour que quelque chose soit drôle, il faut partir de quelque chose qui n'est pas drôle, qui est très noble. Et plus c'est noble, plus c'est facile de s'en moquer. Plus, si un personnage est très courageux dans l'opéra, dans la parodie, il va devenir très peureux. Et si une femme est très, très digne dans l'opéra, dans la parodie, comme Phèdre, elle va devenir. Elle va se comporter comme une femme sans éducation ou sans moralité. C'est ce qui fait que c'est drôle.
D'accord. Est-ce que comment, quel genre de regard on peut aborder sur ce genre de spectacle? Parce que on peut le considérer comme une sorte de fable.
Oui, bien sûr.
Par exemple, plus concrètement, dans pour votre pièce, quel genre de leçon on peut tirer là-dedans?
Ah. Le son, c'est
Oui,
toujours.
c'est tout simplement, on peut le considérer comme un moyen de se distraire.
Oui, c'est d'abord un moyen de se distraire. Parce qu'en fait, la parodie, ce n'est pas un acte méchant sur l'opéra original. C'est simplement un regard plus drôle. C'est comme dans la vie, il y a toujours des choses. On a toujours envie de se moquer des gens très sérieux ou des choses très sérieuses. La parodie fait exactement ça. On a envie de rire parce que tout le monde a une vie quotidienne et personne ne vit dans sa vie quotidienne une vie de roi et de reine. Et donc, quand on voit les rois et les reines qui sont très dignes et quand on sait qu'ils ont aussi une vie personnelle, c'est là qu'on va chercher ce qui est drôle et qu'on s'en moque.
Et d'après ce que vous avez dit, votre histoire est un peu compliquée. Mais comment on peut arriver avec le faire comprendre au public avec des marionnettes,
Ben justement, si c'est compliqué avec les marionnettes, avec les marionnettes, on peut pas faire des choses très compliquées.
Ouais.
Donc ça devient, on comprend normalement, on comprend,
L'essence de
voilà, on
l'histoire.
comprend immédiatement l'essence de l'histoire. Quand on voit une marionnette, on n'a pas besoin de faire de la psychologie parce que on voit sur son visage tout de suite le caractère profond du personnage. Il suffit que la marionnette arrive et on comprend qui elle est, son âge, sa situation sociale, si c'est quelqu'un de gentil, de méchant, d'aigri, etc. Avec les marionnettes, ça, c'est très immédiat et on représente immédiatement ce qu'elle pense, elle le joue tout de suite. Ce n'est pas comme avec les comédiens où il y a une progression psychologique. Non, la marionnette, elle agit immédiatement. C'est ce qui fait l'humour.
Et votre marionnette vient de Prague.
Oui, elles ont été sculptées à Prague et costumées à Prague, parce qu'à Prague, en République tchèque, il y a une très grande tradition de marionnettes depuis plus de 200 ans. Les gens sont très doués. Nous travaillons avec un sculpteur et sa femme, qui s'appelle Petr Rzezacz, et sa femme, Katarina Rzezaczowa, qui ont sculpté, habillé et fabriqué tout le théâtre de marionnettes avec la machinerie que vous allez voir. Et il y a aussi les décors qui ont été peints par un peintre français qui s'appelle Antoine Fontaine, qui est un spécialiste de la toile peinte du XVIIIe siècle et du décor d'opéra du XVIIIe siècle.
Et le chant joue aussi un rôle très important dans cette pièce.
Oui, bien sûr.
Peut-être est-ce que je peux comprendre comme ça, c'est les marionnettes jouent un rôle drôle, amusant, mais le chant vous donne, se charge de jouer un rôle de donner la beauté.
Oui, c'est absolument ça, c'est complètement ça. Les musiciens et les chanteurs vont donner tout l'aspect noble et la beauté et la
Voilà.
poésie. Et les marionnettes, elles, vont jouer des choses beaucoup plus folles, beaucoup plus drôles.
Donc les deux côtés contrariés,
Oui, il y a le contre, voilà. Et
paradoxal,
c'est ça, il y a un contraste et il y a des choses paradoxales, mais qui sont complètement en harmonie dans toute la durée du spectacle. C'était le travail surtout de mise en scène et de préparation du spectacle. C'était que ces deux opposés, de l'humour et grotesque et de la beauté de la musique, soient rassemblés et fonctionnent très bien. C'était le travail principal, avec Miracle Odéanou qui dirige les musiciens et les marionnettistes qui jouent le spectacle.
Avez-vous eu des appréhensions avant de venir en Chine devant de le présenter au public
Oui,
chinois?
mais uniquement du point de vue de la langue. Parce que en français, c'est drôle pour un public francophone. Pour les Chinois, bien sûr, il y aura les surtitres. Et j'espère que ça va permettre de comprendre l'humour. Et puis, les scènes visuelles avec les marionnettes, on comprend immédiatement ce qui se passe. Donc, je pense que ça pourra être drôle. Le public chinois a l'habitude aussi des marionnettes. Et de la diversité des genres, du mélange de la musique, du chant, des marionnettes, des comédiens. Je pense que je suis très confiant et aussi très très excité à l'idée de venir jouer si loin un spectacle que même en France on a très peu vu depuis le XVIIIe siècle, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous réjouit tous énormément de venir jouer ici à Pékin.
Tous les membres sont très contents de venir à
Oui,
travailler.
énormément. J'en parlais avec les autres marionnettistes qui sont beaucoup plus jeunes. Et pour eux, c'est leur première grande expérience professionnelle à l'étranger. Nous avons déjà joué à l'étranger, à Malte, mais si loin en Chine, qui est un autre continent, une autre culture. C'est quelque chose qu'on a envie de faire au moins une fois dans sa vie.
Est-ce que ça témoigne aussi l'apprentissement de l'amitié sino-française
Ah,
pour
ben, bien
Fabien?
entendu. Oui. Je pense que, d'abord, en France, le public français est toujours très intrigué par les spectacles chinois, mais intrigué, mais aussi très amateur de spectacles chinois, de la danse, de la musique, des concerts, de l'opéra de Pékin aussi, qui est une forme très populaire à l'étranger. Et donc, généralement, il y a toujours un a priori très positif de la part des Français pour la culture chinoise. Et pour les Chinois vis-à-vis de la culture française, je ne sais pas encore, mais je pense que oui. Et au contraire, c'est quelque chose de très important, en tout cas pour les artistes, de venir rencontrer certainement d'autres artistes chinois et de présenter leur travail au public chinois. Oui, c'est capital, c'est extrêmement important.
La dernière question, c'est encore sur la musique baroque. Est-ce que il existe des exigences envers le public pour comprendre la musique baroque?
Eh bien, la musique baroque, c'est comme la musique classique, mais c'est en fait la
Ça
musique
demande
baroque.
une étude ou des recherches?
Oui, pour le public, c'est comme tout, c'est comme pour regarder une peinture. Plus on apprend à regarder la peinture, mieux on sait l'apprécier. Pour la musique baroque, plus on en écoute et plus on apprend à l'apprécier. Mais en fait, la musique baroque, qui existe donc depuis 300 ans, en France et en Europe, en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, a connu une résurgence très importante dans les années 70 et 80. Et donc, on n'a pas encore terminé le travail d'interprétation et de recherche sur la musique baroque, parce qu'il y a encore beaucoup de compositeurs à découvrir. Et ça fait que c'est une musique qui est toujours riche, on n'a pas fini de la connaître.
Alors, vive cette musique riche et très belle.
Merci infiniment.